Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nina Hartley. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Elle, âme et la vie réunit des textes de Carl Gustav Jung consacrés aux grandes questions de la psychologie analytique. Ce volume ne se présente pas comme un trait unique et linéaire, mais comme une entrée dans une pensée qui relie clinique, symbolisme, religion comparée, mythologie et réflexion sur la condition moderne. Jung y emploie le terme âme dans un sens psychologique large, proche de psyché, afin de désigner la vie intérieure dans sa complexité consciente et inconsciente. Le livre expose les notions majeures associées à son œuvre, notamment inconscient collectif, archétype, rêve, individuation, persona, tension entre opposés et rôles des symboles religieux. Son but principal est de montrer que la vie psychique ne se réduit ni au raisonnement conscient ni aux explications biologiques simples. Elle possède une profondeur historique, culturelle et symbolique que chaque individu rencontre dans ses rêves, ses conflits, ses images intérieures et sa recherche de sens. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la psyché comme réalité vivante entre conscience et profondeur inconsciente. Le point central du volume est la conception jungienne de âme comme psyché vivante. Jung ne traite pas âme seulement comme notion religieuse ou métaphysique, mais comme réalité observable dans les images, les affects, les rêves et les conflits intérieurs. La conscience rationnelle occupe une place importante, car elle permet orientation, jugement et adaptation au monde extérieur. Toutefois, elle ne représente selon Jung qu'une partie limitée de la personnalité totale. Une grande part de la vie psychique se forme hors du champ conscient et agit sur les choix, les peurs, les désirs et les représentations du sujet. Cette perspective donne au livre sa portée particulière. Jung invite à prendre au sérieux les phénomènes intérieurs qui paraissent irrationnels, non pour abandonner la raison, mais pour comprendre ce que la raison ignore. Le terme âme désigne donc un espace de médiation entre expérience personnelle, mémoire collective, imagination symbolique et transformation individuelle. Cette approche distingue Jung des modèles strictement réductionnistes de la psyché. Deuxièmement, rêve, symbole et archétype comme langage d'inconscient collectif. Le livre met en avant une idée célèbre de Jung, la psyché individuelle contient non seulement des souvenirs personnels refoulés ou oubliés, mais aussi des formes symboliques plus anciennes et plus générales. Jung nomme cette dimension inconscient collectif. Elle ne signifie pas une mémoire historique précise transmise telle qu'elle, mais un ensemble de structures de représentation qui orientent la production de mythes, de rêves, de récits héroïques, de figures maternelles, de images de sagesse ou de menaces. Les archétypes ne sont donc pas des images fixes, mais des tendances à organiser expérience et imagination selon certaines formes récurrentes. Les rêves deviennent essentiels parce qu'ils donnent accès à ces formes sans passer par une construction intellectuelle volontaire. Jung les lit comme des productions symboliques qui compensent souvent les déséquilibres de la conscience. Quand une personne se confond avec son rôle social ou néglige une dimension affective, le rêve peut présenter une image opposée ou déstabilisante. Cette méthode donne au symbolisme une fonction psychologique concrète, non décorative. Troisièmement, individuation et intégration des opposés dans la construction de la personnalité. Un autre axe majeur est le processus de individuation, terme par lequel Jung désigne la formation progressive d'une personnalité plus complète. Il ne faut pas confondre cette notion avec individualisme. Il n'est pas question de se séparer du monde ou de glorifier le moi conscient, mais de reconnaître les différentes composantes de la psyché et de les mettre en relation. La persona, masque social nécessaire à la vie collective, devient problématique si elle remplace toute la personnalité. De même, les aspects rejetés ou honteux de soi ne disparaissent pas par simple volonté morale. Ils peuvent revenir sous forme de projections, de tensions ou de conduites répétitives. Jung insiste donc sur une intégration prudente des opposés, conscience et inconscient, raison et affect, adaptation sociale et vérité intérieure, bien reconnue et mal refuse. Cette intégration ne supprime pas le conflit, mais transforme son rôle. Au lieu de produire seulement division et symptômes, la tension devient une source de maturation psychique. La totalité recherchée reste dynamique, jamais définitivement acquise. Quatrièmement, la fonction psychologique du religieux face au désenchantement moderne. Elle, âme et la vie accordent une place importante aux images religieuses, non pour défendre une doctrine confessionnelle, mais pour examiner leur fonction psychique. Jung considère que les traditions religieuses ont longtemps fourni des formes symboliques capables de contenir peur, culpabilité, espérance, mal, mort et aspiration à une totalité. Lorsque la modernité affaiblit ces cadres sans proposer de symboles équivalents, la psyché peut se trouver appauvrie ou désorientée. Le problème n'est donc pas seulement intellectuel, il concerne la manière dont une personne donne forme à des forces intérieures qui dépassent le moi. Jung analyse les mythes, rites et figures divines comme des expressions de structures profondes de la psyché. Cette position peut dérouter car elle refuse à la fois le matérialisme simple et le dogmatisme religieux. Elle permet toutefois de comprendre pourquoi des images anciennes continuent de revenir dans rêves, œuvres artistiques et crises personnelles. Le religieux devient ici un champ symbolique où la psyché cherche équilibre, orientation et relation avec une dimension plus vaste que le moi. En dernier lieu, une méthode interdisciplinaire fondée sur clinique, culture et prudence interprétative, le volume montre aussi la singularité de la méthode jungienne. Jung part de expériences cliniques, en particulier des rêves, des associations et des conflits psychiques, mais il ne limite pas son analyse au cabinet thérapeutique. Il compare les productions individuelles avec des matériaux issus de mythologie, alchimie, religion, contes, philosophie et histoire des symboles. Cette ampleur donne à sa psychologie une richesse inhabituelle, car elle situe les troubles et les images personnelles dans un horizon culturel plus large. Elle comporte aussi une difficulté réelle. Les liens entre un rêve, un mythe et un symbole ancien demandent prudence, car une interprétation trop rapide peut imposer une signification au lieu de la découvrir. Le livre exige donc un lecteur prêt à accepter une pensée analogique et nuancée. Jung ne propose pas une méthode expérimentale au sens strict des sciences naturelles, mais une approche herméneutique et clinique. Sa valeur tient à la capacité de relier symptômes, imagination, culture et codes de sens sans réduire un niveau à un autre. En conclusion, ce livre convient au lecteur qui souhaite entrer dans la pensée de Jung par ses tomes les plus représentatifs plutôt que par une étude technique exhaustive. Il intéressera les étudiants en psychologie, les praticiens ouverts à la psychologie des profondeurs, les lecteurs de philosophie religieuse, ainsi que toute personne qui cherche à comprendre rêves, symboles et conflits intérieurs sans les réduire à de simples accidents mentaux. Son bénéfice principal est intellectuel et réflexif. Il apprend à considérer la vie psychique comme un ensemble stratifié où la conscience dialogue avec des forces plus anciennes, personnelles et collectives. Sur le plan pratique, il ne fournit pas un manuel de thérapie ni une méthode rapide de développement personnel. Il offre plutôt des repères pour observer ses images intérieures, reconnaître ses projections, relativiser son masque social et comprendre la valeur psychologique des opposés. Par rapport à de nombreux ouvrages de psychologie générale, Elle, âme et la vie se distinguent par sa densité symbolique et sa portée culturelle. Par rapport aux textes plus spécialisés de Jung, il sert de porte-entrée plus accessible, tout en conservant la complexité de sa pensée. Sa singularité réside dans cette articulation rare entre clinique, mythe, religion, modernités et transformation de la personnalité. Si vous souhaitez soutenir Carl Gustav Jung, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.